François Lebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Lebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Deux informations majeures ce soir. La première, c'est bien sûr cet accord survenu cette nuit entre Israël et le Hamas pour la libération des otages israéliens et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est Donald Trump qui l'a annoncé. Il était 2h du matin, heure israélienne, sur son réseau social Truth Social. Et il s'est dit fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas avaient conclu un accord et signé la première phase de son plan pour mettre fin à la guerre de Gaza. Dans le détail, les otages vivants devraient être libérés en priorité, sans cérémonie de libération. Cette précision intervient dans un contexte d'incertitude concernant le sort des otages qui sont décédés. Le Hamas, de son côté, a informé les médiateurs et Israël qu'il ignore la localisation de plusieurs dépouilles d'otages. D'ailleurs, un mécanisme quatripartite israélo-égypto-qatari-palestinien sera mis en place pour retrouver et rapatrier les corps. Et Israël souligne que le retour de tous les otages décédés constitue un élément essentiel de l'accord. Alors, François Lebrun, qu'est-ce qui aujourd'hui a fait débloquer cette situation intenable depuis 2 ans ?
Vous posez une excellente question. D'abord, on doit saluer la victoire diplomatique, politique, sécuritaire et stratégique de Donald Trump, qui s'y était engagé, qui est allé jusqu'au bout, avec sa volonté, sa ténacité et ses méthodes, parfois surprenantes, mais ça prouve que son pragmatisme fait que ça obtient des résultats. Mais il ne faut pas du tout minorer les actions d'Israël pour obtenir ce résultat. Je pense que ce résultat positif d'une fin de guerre, d'une libération des otages, d'un chemin vers un accord régional de paix plus large avec des États qui n'avaient pas encore reconnu Israël, notamment le Qatar par exemple, mais aussi l'Arabie Saoudite, est une excellente chose. Et je pense que donc on peut aussi remercier Israël et surtout les jeunes soldats israéliens, l'armée israélienne, la classe politique israélienne dans son ensemble, de son engagement ferme de mener cette guerre terrible, cette guerre longue. C'est la plus longue guerre d'Israël, de toute l'histoire d'Israël, 2 ans de guerre, de la mener jusqu'au bout et de la mener sur 7 fronts de manière quasiment simultanée. Quand on dit 7 fronts, les gens oublient, ils ont l'impression que c'est que la guerre à Gaza, mais il y a eu la guerre au Liban, il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu la guerre avec l'Iran, il y a eu la guerre avec les Houthis au Yémen, il y a eu la guerre en Cisjordanie avec des cellules terroristes du Hamas. Il y a eu même la guerre en Irak avec des cellules terroristes chiites proches de l'Iran. Donc c'était vraiment sur 7 fronts simultanés. Et Israël a remporté toutes ces guerres. Et je pense qu'il a été l'accélérateur, puisque bon, on stagnait un peu depuis 6-9 mois. Ce sont 2 choses. C'est la première chose, la frappe aérienne absolument incroyable de l'aviation israélienne sur Doha, la capitale du Qatar, il y a quelques semaines, qui a montré au Qatar, qui était le principal et qui est le principal soutien du Hamas à tout point de vue militaire, financier, stratégique et même diplomatique, a montré au Qatar qu'ils n'étaient pas protégés par le parapluie américain, qu'ils étaient même totalement déshabillés face à toute frappe israélienne, et qu'à force de soutenir le Hamas et de jouer sur les 2 tableaux, d'un côté les sourires à la tribune de l'ONU, et d'autre part le financement du Hamas et la protection des leaders du Hamas, c'était plus jouable. Et donc il était temps de lâcher le Hamas, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui s'est passé avec la Syrie et la Turquie. Pour la Turquie, c'est absolument essentiel d'avoir le contrôle de la Syrie pour des raisons géopolitiques. Ça leur permet de contrôler ce qu'ils considèrent comme des mouvements dangereux pour eux, qui sont les indépendantistes kurdes, syriens et turcs, et qui se trouvent généralement au nord de la Syrie. Ils sont très contents d'avoir mis en place un président qui est à leur main, qui est un de leurs hommes, qu'ils ont armé et financé. Et la seule menace contre ce nouveau président syrien, c'est la volonté d'Israël de protéger sa frontière, de protéger les minorités de Russes, comme ils l'ont fait. Et donc la Turquie avait aussi besoin d'un deal plus important avec Israël sur une neutralité sur la Syrie, et je pense qu'en échange, ils ont lâché le Hamas. Et ce que Trump a obtenu aussi, c'est que Netanyahou, qui était un peu coincé dans sa coalition avec 2 ministres d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, donc il était un peu coincé parce qu'il risquait de perdre la majorité, Trump lui a donné tous les appuis nécessaires et toutes les confirmations nécessaires que s'il aboutissait à un accord de paix qu'il voulait... eh bien, Israël continuera à être soutenu. Donc, Trump, par ses mécanismes et ses techniques de négociation, a permis de déboucler tout ça, mais aussi, il faut remercier la force, le courage de toute la société israélienne et de son armée pour obtenir cette victoire, totale sur énormément de plans, et qui, j'espère, va permettre de conduire, au-delà de la libération des otages et de la fin de la guerre, vers un chemin constructif de paix intelligente dans la région.
François Heilbronn, on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé depuis 2 ans à travers toute l'Europe et notamment en France avec tous ces mouvements pro-palestiniens, pro-Hamas qui se sont manifestés que ce soit dans les universités, que ce soit dans les rues des principales capitales européennes, avec cet accord, avec la fin des combats et un cessez-le-feu. On ne parle pas de paix, hein, là, on parle juste d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. Ces gens-là ne vont plus avoir de carburant pour alimenter leur antisionisme et leur antisémitisme primaire.
Tout à fait, mais là aussi, il y a l'écume de l'actualité, il y a l'intensité des émotions et des sensibilités, et les réseaux sociaux sont qu'une pompe à émotions. Effectivement, on peut espérer que ces pompes à émotions vont être asséchées et que la haine diffusée contre Israël, contre les sionistes, entre guillemets, et contre les juifs, va perdre en intensité. Je pense pas qu'elle va disparaître, hélas, mais elle va perdre en intensité. Surtout, cette haine était alimentée principalement par Al Jazeera et Al Jazeera Plus, dépendante du Qatar, donc peut-être le Qatar va lever le pied là-dessus, alimentée aussi par l'Iran et ses robots, par les Russes et ses techniques de déstabilisation, et puis par les idiots utiles ou les complices criminels qu'il y a dans différents pays, et en France sont une partie de la gauche et une organisation, un parti qui a fait de l'antisémitisme et de l'antisionisme un de ses chevals de Troie, une de ses techniques de campagne, c'est-à-dire la France insoumise de Mélenchon. Effectivement, on peut espérer que s'ils ont plus ce moteur, ils vont lever le pied. C'est pas sûr. Par contre, pour répondre aussi à votre question, j'ai essayé de réfléchir un peu à ce que nous avons vécu, vous comme moi, parce qu'on a à peu près le même âge, il y a 40 ans et il y a 20 ans. Il y a 40 ans, sur le moment de la première guerre du Liban, on avait eu la même campagne de haine contre Israël. Les Israéliens génocidaires déjà, les Israéliens des nazis, Beyrouth c'était Varsovie, et Sabra et Shatila c'était un génocide, bien que ce n'ait pas été commis par les Israéliens. Et il y a 20 ans, on a eu ça avec la deuxième intifada, et surtout les campagnes terroristes qu'il y a eu, et les réponses israéliennes. Jenin, c'était à nouveau Varsovie. Le petit Mohamed, c'était le petit garçon du ghetto qui avait été assassiné, etc. Et toutes ces techniques de propagande des soviétiques, des pays arabes ont continué, mais assez vite en fait, bon alors c'est pas tout de suite, c'est pas dans les mois qui viennent, mais dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah ça s'oublie, et puis 10 ans plus tard, bah si Israël va vers un chemin de paix, vers un chemin de coopération régionale, je pense qu'on pourra reconstruire. Par contre, là où ça m'inquiète, il faut déconstruire ce discours, il faut démontrer le mensonge de ce discours, c'est l'accusation de génocide contre Israël, que Israël est un État génocidaire, que tous les soutiens d'Israël sont des complices de génocide, qui est évidemment totalement faux à tout point de vue, juridique, historique, politique, humanitaire, tout ça est faux. Il y a eu des victimes civiles d'une guerre terrible, mais il y a eu des victimes civiles, il n'y avait aucune intention génocidaire, évidemment, il n'y a aucun génocide. Mais il ne faut surtout pas que cette accusation infamante, dangereuse contre les Juifs, reste ancré dans les populations, ça a fait énormément de dégâts chez les jeunes, on le voit dans tous les sondages, entre 15 ans et 30 ans, ça fait énormément de dégâts. Une majorité croit qu'il y a eu un génocide, donc il faut absolument rapidement déconstruire ce discours par des preuves, des enquêtes, du travail de terrain, juridique, politique, pour montrer que c'est un mensonge, parce que sinon cette accusation de génocide nous collera à la peau, comme l'a très bien dit Yonatan Arfi, le président du CRIF, dans son très beau discours, à la soirée organisée par le CRIF en soutien aux otages et en commémoration des 2 ans des massacres du 7 octobre, dimanche soir à la salle PIL, Yonatan Arfi a dit « Sinon, cette accusation de génocide risque de nous coller à la peau pendant des décennies, comme l'accusation de déicide nous a collé à la peau pendant des millénaires. » Et donc ça, c'est un des discours à déconstruire très vite, et j'espère que les Iraniens, les Américains et les pays arabes modérés participeront à ça pour montrer l'inanité de cette accusation, parce que sinon cette accusation continuera à alimenter l'antisémitisme en Occident.
L'autre information majeure ce soir, c'est l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, qui a aboli la peine de mort. Et on a appris que la tombe de Robert Badinter a été dégradé aujourd'hui au cimetière parisien de Bagneux. La municipalité a évoqué la présence sur la sépulture de tags qui insultent ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité.
De fait, ben, évidemment, je condamne, comme toute la classe politique est en train de le faire, d'ailleurs, de condamner cette profanation, cette dégradation, au moment même où ce citoyen exemplaire, cet homme politique engagé et visionnaire sur beaucoup de choses, va être recevoir le plus bel hommage de la nation, c'est-à-dire son entrée au Panthéon des grands hommes. Ce qui me réjouit aussi, c'est cette rentrée au Panthéon des grands hommes, c'est qu'il y a quelques juifs, et il y a de plus en plus de juifs qui sont honorés au Panthéon des grands hommes. Il y a René Cassin, prix Nobel de la paix, il y a Simone Veil, il y a Jean Zay, et maintenant il y a Robert Badinter, et bientôt il y aura aussi Marc Bloch. Donc cinq grands juifs au Panthéon, c'est quelque chose de très beau et très fort. Et donc salir en plus le jour de cet hommage-là par cette dégradation, c'est scandaleux, et je suis sûr que les services de police assez efficaces avec leur matériel de vidéosurveillance, on pourra retrouver l'auteur des faits qui sera sévèrement condamné. Mais pour revenir à Robert Badinter, moi j'ai eu la chance de bien le connaître, parce que je suis vice-président du Mémorial de la Shoah, et en tant qu'il a été pendant plus de 25 ans administrateur du Mémorial de la Shoah, et donc à nos conseils d'administration, deux fois par an, il était là très régulièrement. Et ce qui m'a frappé, parce que moi ça fait 25 ans aussi que j'y suis, c'est que je l'ai vu évoluer. C'est-à-dire qu'il était intéressé par les questions mémorielles, mais il ne parlait pas beaucoup, ni de la déportation de son père, ni de la déportation de sa grand-mère. Il était assez secret sur le sujet au début, il était intéressé par les actions du mémorial. Et au fil du temps, au fil des années, comme on l'a vu d'ailleurs dans ses prises de position publiques, il s'est plus intéressé à l'histoire des Français juifs, il s'est plus intéressé à ce qui s'est passé pendant la guerre, il nous posait beaucoup de questions, il venait souvent aux archives, il a été très ému à l'inauguration du mur des noms. Et quand il a écrit son très beau livre sur sa grand-mère, il est venu le présenter au mémorial, il était très très bouleversé de présenter ça, il a eu du mal à parler de la déportation et de l'arrestation de son père, et à nos conseils du mémorial, ce qui était intéressant, c'est qu'il était de plus en plus engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, et il nous soutenait vraiment dans toutes les actions éducatives que nous faisons, c'est-à-dire on accueille plus de 160 000 scolaires, on forme plus de 6 000 professeurs, il pensait que c'était vraiment la bonne chose à faire, que l'éducation c'était essentiel pour lutter contre l'ignorance et la haine, et progressivement il est devenu de plus en plus attaché au mémorial, de plus en plus juif, si je peux me permettre, et de plus en plus lucide sur les dangers du nouvel antisémitisme, jusqu'au bout. Il a été administrateur, il a démissionné pour des raisons de santé il y a un an, mais jusqu'au bout il était présent, lucide, engagé, et au-delà de tous ses engagements nationaux, évidemment l'abolition de la peine de mort, c'est cette image-là de grand patriote, de grand républicain, de grand français, mais qui avec le temps, est devenu de plus en plus un Français juif et peut-être un juif français, conscient et lucide des dangers de notre temps et qui nous alertait sur l'importance de notre combat éducatif et mémoriel pour lutter contre la haine.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris et vice-président du Mémorial de la Shoah à Paris. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.